à toutes, c'est Thaïs Morand au micro du LFUB Line. Nous revoilà après une longue pause, dans un nouvel établissement avec plein de super bonnes nouvelles et bons plans à vous présenter. Commençons tout de suite par la présentation de l'inauguration du lycée français international Charles de Gaulle de Pékin, présenté par moi-même et par Giovanna Massari.
Le lundi 16 mai, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, est venu inaugurer notre campus. La cérémonie présentée par Théophile Lagrelet et Kim Picard, deux élèves du lycée, a commencé par une chanson entonnée par les enfants du chœur du LFUP, intitulée « Voir sur ton chemin », et finie par la Marseillaise après les deux discours de Monsieur le Ministre et Son Excellence l'Ambassadeur.
Monsieur Bouchard, directeur de l'AEFE, était également présent lors de l'inauguration. Notre équipe en a profité pour lui poser quelques questions.
Monsieur Bouchard, bonjour. Je m'appelle Hermine Bénichon. Je suis en quatrième et je suis arrivée cette année à Pékin.
Bonjour, je m'appelle Éloi Bressot et je suis aussi en quatrième et arrivée également à Pékin cette année.
Bonjour, je m'appelle Lucine Wu, je suis aussi en quatrième et je suis arrivée il y a 4 ans.
Cette interview sera retransmise sur la web radio de notre lycée, mais aussi sur la web radio Asie.
Pour la première question, quel est votre cursus scolaire ?
Alors d'abord il est un petit peu ancien maintenant, j'étais dans une école à Paris, puis ensuite dans la banlieue parisienne, ensuite je suis allé dans un collège dans le Val-de-Marne, au lycée Charlemagne, ça c'était à Paris, j'ai eu mon bac littéraire, à l'époque ça s'appelait un bac A, et puis ensuite j'ai fait Sciences Po à Paris, et puis l'ENA.
Nous avons lu dans votre biographie que vous étiez également ministre plénipotentiaire de deuxième classe. Pourriez-vous nous éclairer sur cette appellation ?
Oui, alors ça c'est un grade. Donc moi je suis un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Et donc quand on entre dans ce ministère, alors on entre à un certain grade et puis on évolue au fil de la carrière. Donc au début de ma carrière, j'étais le grade c'était secrétaire des Affaires étrangères, ensuite conseiller des Affaires étrangères. Et ensuite il y a ce grade qui a un titre un peu... peut paraître un peu ancien, qui s'appelle donc ministre plénipotentiaire. et qui en fait revient à une époque où les ministres, ça voulait dire, c'était pas ministre au sens des membres du gouvernement comme aujourd'hui, mais c'était ministre au sens presque d'ambassadeur. Et en fait, à une époque, l'ambassadeur de France en Autriche, par exemple, auprès de ça s'appelait le ministre de France en Autriche. Donc voilà, ça vient de ça, et ça veut dire surtout que je commence à être un peu âgé, parce que c'est un grade qu'on a vers plutôt la deuxième, voire la troisième partie de sa carrière.
Le 21 janvier 2016, vous êtes devenu le 9e directeur de l'Agence des Français à l'étranger, depuis sa création en 1990. Pourquoi avez-vous accepté cette nomination ?
Alors j'ai accepté parce que c'était une proposition passionnante. Je connaissais déjà, bien sûr, comme la plupart des diplomates, je connaissais le réseau des écoles françaises à l'étranger. Et donc, quand le ministre de l'époque, qui était encore Laurent Fabius, m'a proposé ce poste, bien sûr, j'ai accepté parce que c'est un poste passionnant. On a la chance d'avoir et le ministre actuel l'a dit ce matin, le réseau le plus important d'écoles françaises dans le monde. Il n'y a aucun autre pays qui a un réseau comme le nôtre. Et donc, voilà, c'était un passionnant et aussi un challenge. Pas facile à relever, donc bien sûr j'ai accepté.
Il y a encore quelques mois, ce nouveau lycée était à état de projet, et aujourd'hui vous nous faites l'honneur de l'inaugurer. Que pensez-vous de cette réalisation ?
Alors c'est une superbe réalisation, un superbe lycée, des installations qui vous permettent depuis une semaine d'étudier, mais de vivre aussi dans les meilleures conditions. Et justement, j'ai la chance, le hasard du calendrier fait que j'ai participé à l'inauguration aujourd'hui, alors que je viens de prendre mes fonctions il y a quelques mois. Mais j'en profite pour remercier, rendre hommage à tous mes prédécesseurs, parce que c'est un projet qui est très ancien. Et donc Hélène Farnot avant moi, Anne-Marie Descôtes, qui avait signé en 2009 l'attribution du marché, Maryse Bossière avant. J'ai eu plein de prédécesseurs qui ont travaillé sur ce projet, et c'est leur travail aujourd'hui qui aboutit, même si c'est moi qui ai la chance d'être là pour l'inauguration.
Plus de 330 000 élèves dans 136 pays sont scolarisés à travers le monde dans des écoles du réseau AEF. 25 ans après la création de l'agence, comment expliquez-vous cette réussite ?
C'est une réussite d'abord parce que on a donc la chance, on a cette ambition d'avoir un réseau d'écoles françaises à l'étranger, pour répondre à la fois aux besoins des Français, donc de nos compatriotes dont les enfants doivent être scolarisés, et aussi la volonté d'offrir un enseignement pour les enfants du pays. Alors même si ici, en Chine, c'est pas possible, mais dans la plupart des autres pays, les enfants du pays vont dans nos écoles. Et donc je crois que c'est ce mélange entre le système français et puis l'ouverture sur l'international et l'ouverture sur les pays d'accueil qui fait que les gens, à la fois les Français et les étrangers, ont envie de venir dans nos écoles. Et effectivement, chaque année, il y en a un peu plus.
Pensez-vous que le fait d'avoir tous ces lycées dans autant de pays du monde est une forme de diplomatie culturelle et linguistique?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est d'abord un service donc pour les Français, donc c'est aussi un outil pour la diplomatie économique, parce que souvent, pour qu'une entreprise française s'installe dans un endroit avec des expatriés, il faut que les expatriés aient la possibilité de scolariser leurs enfants. Et puis c'est une diplomatie culturelle et linguistique, parce que l'idée c'est justement de promouvoir la langue française, la façon française d'éduquer, donc l'éducation non seulement des valeurs fondamentales, des matières de base, mais aussi l'éducation à la citoyenneté, ce qu'on appelle les valeurs de la République. C'est important pour que des enfants, des élèves étrangers puissent aussi avoir cette ouverture sur la culture française, tout en gardant bien sûr le lien avec leur culture d'origine.
Le taux de réussite au bac dans les établissements français étrangers est de 96%. Comment expliquez-vous ce taux très élevé ?
La première explication, c'est que les élèves sont très bons. Et donc, c'est d'abord grâce à votre travail que vous faites dans toutes les écoles et tout au long de la scolarité. Ça veut dire aussi que leurs professeurs sont bons. parce que évidemment sans les enseignants et sans des bons enseignants, on n'y arrive pas. Et puis c'est, je dirais, ensuite, alors ça c'est notre responsabilité, c'est d'offrir justement des bonnes conditions d'études, parce que c'est important d'avoir un bon professeur, mais il faut aussi avoir les bonnes installations, et, il faut avoir maintenant les équipements numériques par exemple, les équipements sportifs, et puis je crois que, encore une fois, la rencontre entre des élèves français, des élèves de tous les pays du monde, ça stimule. Et donc ça nous amène à ce résultat qui est excellent. Il y a beaucoup de lycées où le taux est 100% de réussite, mais vous voyez, il est presque de 100%. Et puis beaucoup de mentions aussi, ça c'est important. Beaucoup de mentions, assez bien, bien, très bien. Et puis après, des élèves qui sont, une fois qu'ils ont passé le bac, qui sont très recherchés dans toutes les universités en France et les grandes écoles. Moi, on me dit souvent, on a envie d'avoir vos bacheliers dans nos universités, dans nos grandes écoles, parce qu'on sait que les bacheliers qui viennent des lycées français de l'étranger sont de bons élèves et vont devenir de bons étudiants.
Pensez-vous que les lycées français à l'étranger permettent à la francophonie de se développer dans les pays du monde ?
Oui, ça rejoint le point sur la diplomatie culturelle et linguistique. Ça permet à beaucoup d'élèves étrangers, puisque donc vous avez parlé de 330 000 élèves, il y en a à peu près deux tiers qui sont étrangers, et dont certains arrivent le premier jour dans nos écoles, dans nos lycées, sans parler un mot de français. Et quand ils en ressortent, bien sûr, ils sont parfaitement francophones. Et ensuite, ils gardent cette connaissance du français, cette culture française, tout au long de leur vie, de leur carrière. Et pour nous qui avons cette volonté de faire en sorte que la langue française continue d'être parlée dans le monde, les lycées sont un instrument indispensable.
Quels sont les grands défis de demain pour l'AEFE ?
Alors il y en a beaucoup, ça c'est une question, c'est une question très large. Je dirais il y a plusieurs choses. Il y a d'abord continuer d'avoir ce système qui est formidable mais qui n'est pas simple à mettre en œuvre, parce que on a donc des lycées qui suivent le programme français, qui sont des structures donc gérées par l'administration française, mais à l'étranger. Donc il faut toujours trouver des compromis entre la loi française et la loi étrangère, entre le système d'éducation français et l'ouverture, notamment l'enseignement des langues du pays. Donc ça c'est pas simple au quotidien. Et puis aussi, alors on a des défis dans certains pays quand le nombre de Français diminue. Ça a été le cas depuis quelques années ici en Chine, et donc évidemment il faut s'organiser pour pouvoir faire face à cette diminution, mais on espère bien que ça va être rattrapé. Et puis à l'inverse, il y a des pays où là au contraire la population française augmente très très vite, et où là le défi c'est de pouvoir ouvrir de nouvelles écoles, de nouvelles classes pour accueillir tout le monde. Mais ça coûte de l'argent, et donc il faut trouver de l'argent. Et c'est souvent, comme dans beaucoup de structures, c'est souvent un de nos défis. Et puis faire évoluer toujours la pédagogie pour suivre à la fois les réformes françaises. Là, cette année, c'est la réforme du collège qui est la nouveauté. Et puis il faut aussi montrer, par exemple ici à Pékin, que le lycée français peut attirer de nouveaux élèves, parce qu'il y a une concurrence, il y a d'autres écoles internationales ici à Pékin. Et donc il faut montrer, maintenant avec le nouveau lycée, on a de quoi attirer de nouveaux élèves chez nous.
Les écoles françaises à l'étranger forment de jeunes citoyens du monde, plurilinguistes et pluriculturels. À ce propos, nous avons participé la semaine dernière en tant qu'équipe Asie-Pacifique, dont Lucie faisait partie pour représenter
oui,
Pékin.
Je me souviens.
À la finale, ambassadeur en herbe à l'UNESCO et à l'Assemblée nationale. D'après vous, dans quelle mesure ce projet peut-il être un moment fort durant toute l'année scolaire ?
Alors, c'est une belle initiative. Effectivement, on était la semaine dernière d'abord à l'UNESCO, ensuite à l'Assemblée nationale. C'est bien parce que c'est un exercice d'apprentissage, du débat, de la démocratie. Ça permet de parler de choses importantes. On a parlé de la liberté d'expression la semaine dernière, par exemple, de comment on devient un citoyen du monde. Donc ça, c'est formidable. Et c'est formidable parce que ça montre bien que on est un réseau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement ici les élèves du lycée de Pékin, mais vous faites partie d'une grande famille. C'est un moment fort toute l'année, parce que là, c'était la phase finale, la semaine dernière, mais vous aviez travaillé dans chaque pays, dans chaque région, donc je crois que vous aviez commencé au début de l'année scolaire. Et donc c'est ça qui est important. Il y a les 50 qui ont eu la chance de venir à Paris la semaine dernière, mais au-delà de ça, il y a plusieurs centaines qui ont participé tout au long de l'année. Et on va recommencer l'année prochaine, parce qu'il faut vraiment que ça devienne un des moments, à la fois sur le plan pédagogique, parce que je crois que c'est très important. Tous ceux qui et toutes les personnalités qui ont assisté la semaine dernière aux séances ont été très, très impressionnés. Et puis je vous dis, parce que comme ça crée des liens entre les différents lycées du monde.
Une des problématiques d'Ambassadeur en Herbe a été l'éducation aux médias. Quels sont les objectifs de l'AEFE dans ce domaine ?
Alors c'est vrai que c'est important, ça doit faire partie de l'éducation, parce que les médias ont toujours occupé une place importante, mais il y a eu une grande révolution depuis 20-30 ans avec Internet, avec les réseaux sociaux, en plus des médias traditionnels qu'on connaissait, les journaux, la télévision. Et donc, alors déjà, les journaux, la télévision, la radio, il fallait apprendre à s'en servir, il faut, comme vous le faites, mais avec les nouvelles techniques, évidemment, c'est à la fois beaucoup plus facile, parce que vous pouvez monter une web radio, alors que créer une radio traditionnelle il y a 50 ans, ça aurait été très compliqué, parce que ça nécessitait beaucoup d'équipement, beaucoup de matériel. Les réseaux sociaux, tout le monde peut les utiliser et toucher et parler et communiquer avec des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Mais il faut savoir s'en servir, et l'éducation c'est ça. Il faut savoir décrypter, il faut savoir comprendre, il faut savoir faire la part entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il faut faire attention, c'était un des débats la semaine dernière, il faut faire attention à ce qui peut menacer les gens, la diffamation, et donc c'est important. Il faut que vous qui êtes les citoyens du 21e siècle, vous sachiez, vous ayez les outils pour vous servir de ce qu'il y a de mieux dans ces médias, et de faire attention à ce qui peut être dangereux aussi.
Avant de conclure cette interview, nous souhaiterions connaître votre matière préférée à l'école, mais également à notre âge, c'est-à-dire à 14 ans, si vous aviez déjà une idée de votre futur métier.
Alors, mes matières préférées, c'était, je crois, l'histoire et la géographie. Donc, comme je vous dis, j'ai passé un bac littéraire, donc c'était plus ça, la littérature aussi. Et en revanche, beaucoup moins les maths et la physique et la chimie qui me passionnaient pas. Et à 14 ans, non, honnêtement, j'avais pas vraiment encore d'idée. Je commençais à voir que justement, je préférais plutôt les matières littéraires, puisqu'on les sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences humaines en général. Après, j'ai fait du droit, sciences politiques, vous voyez, ces choses-là. Donc je savais déjà à l'époque que je serais pas un ingénieur ou un grand scientifique. Mais après, sur ce que j'allais faire précisément après, non, ça s'est décidé, ça, plus quand j'approchais de la terminale.
Nous vous remercions, monsieur le directeur, d'avoir répondu au micro de la web radio LFIPCDG Line. Bon séjour à Pékin.
Ben, merci beaucoup, et puis bravo pour votre web radio, et continuez comme ça.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Tout de suite, retrouvons Baptiste pour nous parler de la loi travail et des manifestations à venir en France.
Le gouvernement n'en a pas terminé avec la contestation de la loi travail. Après les carburants, le secteur des transports s'apprête à vivre une semaine agitée avec des appels à la grève reconductibles lancés pour des motifs mêlant revendications internes et opposition à la loi travail, alors que l'Euro de football approche.
Des 52 articles de la loi travail, l'article 2 est le plus décrié. Mais que contient exactement le point le plus polémique du texte ? L'article 2 révise l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Actuellement, les premiers priment sur les seconds. Une fois signé, l'accord de branche s'applique à toutes les entreprises du secteur. Il constitue un garde-fou car l'accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable pour les salariés que l'accord de branche, qui lui-même ne peut pas être moins avantageux que le Code du travail.
L'article 2 du projet de loi souhaite inverser la logique et donner la priorité à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, pour tout ce qui concerne la durée de travail. nombre maximum d'heures travaillées, heures supplémentaires, congés payés, temps de repos. Les négociations se tiennent désormais au niveau de l'entreprise. À titre d'exemple, les heures supplémentaires pourront dorénavant être majorées à moins de 25%, ce qui rendait impossible certains accords de branche. Article à suivre. Nous vous tiendrons informés de notre prochaine émission, l'avancée de cette loi.
Du nouveau en matière de transport en Chine.
Un transport en commun d'un nouveau genre est en train de voir le jour en Chine. Le prototype grandeur nature d'un bus anti-embouteillage devrait en effet être testé cet été. Ce bus enjambeur, surélevé et porté par des glissières sur les bords des routes, serait capable de circuler littéralement au-dessus des voitures grâce à sa largeur de 8 mètres. D'une longueur de 60 mètres, il pourrait transporter jusqu'à 1400 passagers et rouler à 65 km/h à environ 5 mètres au-dessus du sol. Des véhicules d'une hauteur maximale de 2,1 mètres pourraient alors rouler dessous. Il fonctionnerait également à l'électricité et pourrait remplacer 40 bus.
Avoir brillamment franchi les étapes de sélection ambassadeur en herbe à l'AFIP, puis lors de la finale zone avienciane, Lucineus, élève de 4e, s'est rendue avec 4 autres élèves de la zone Asie à Paris. Afin de discourir à la tribune de l'UNESCO et de l'Assemblée nationale sur des thématiques liées à l'actualité devant des députés et des sénateurs, retrouvez quelques interviews d'élèves du lycée français du monde entier, également finalistes à Paris.
Bonjour mademoiselle, pouvez-vous vous présenter ?
Donc, bonjour, je m'appelle Anaïs Martin et je suis en CM2 bilingue au lycée français d'Accra au Ghana.
Bonjour, alors vous avez participé à la finale ambassadeur en herbe à Paris cette année. Allez-vous vous réinscrire pour les années suivantes ?
J'y pense, j'y réfléchis mais je ne sais pas encore.
D'accord. Qu'avez-vous appris durant les multiples débats que nous avons abordés ?
Niveau pratique, on a appris plein d'astuces pour savoir parler en public. Et niveau thématique, on apprend plein d'informations et de trucs qui se passent dans le monde. Et donc, on est plus conscient de ce qui se passe. Donc on essaie de trouver des solutions.
Je m'appelle Adrien Prieur, je suis modérateur. Et je viens du lycée français international Marguerite Duras au Chemin Ville, Vietnam.
Bonjour Adrien. Qu'avez-vous pensé de la 4e édition de Ambassadeur en herbe ?
J'ai trouvé cette édition spéciale car on a enlevé l'esprit de compétition à Paris. Mais c'est mieux qu'avant, on a oublié cet esprit qui m'a marqué dans la 4e édition.
Qu'as-tu retenu du débat et que vas-tu enseigner à tes camarades revenant dans ton pays natal ?
C'était très intéressant. Dans les débats, c'est très enrichissant, un vrai travail de réflexion, de préparation, de discours. Donc on a beaucoup appris sur divers sujets actuels, l'écologie, l'éco-citoyenneté, tout ça. Et du coup, j'aurais énormément de choses à raconter à mes camarades sur l'écologie, etc.
As-tu trouvé les activités en dehors de l'UNESCO intéressantes ?
Oui, c'était très original l'activité sur le bateau mouche par exemple, car on ne visite pas tous les jours Paris en bateau mouche, on fait plus métro, on fait plus classique et là c'était plus marrant. Et surtout dîner sur un bar parisien sur l'eau, c'est assez marrant.
Et j'étais avec vous, avec toi, on est allé voir un film au cinéma demain. Donc, qu'en as-tu pensé ?
Je trouvais ce film intéressant car on montrait des manières pour sauver la planète avec pas trop d'investissement et petit comme les fermes périurbaines.
Merci beaucoup Adrien, à bientôt.
Bonjour, je m'appelle Ismaël Larabi. Je suis directeur de l'école primaire au lycée Albert Camus de Conakry en Guinée, dans la zone Afrique de l'Ouest.
Bonjour, très heureuse de vous interviewer aujourd'hui en raison de votre accompagnement pour Ambassadeur en Herbe. Qu'avez-vous fait pour aider vos élèves à faire de bons discours?
Déjà, on a essayé de réfléchir ensemble, de faire ce qu'on appelle un brainstorming ensemble pour pouvoir essayer de réfléchir, voir un petit peu dans chaque thème ce qu'on pouvait apporter, comment on pouvait aborder ces sujets-là. Et puis les aider à formuler de la meilleure façon pour qu'ils puissent, eux, après s'approprier le sujet et pouvoir débattre ou bien présenter ce qu'ils veulent présenter.
D'accord. Avez-vous vous-même appris durant ces 3 jours de débat?
Bien sûr, on en apprend tous les jours. À chaque sujet, ça nous permet de réfléchir, de nous remettre en question. Et ces moments-là, ce sont des moments forts parce qu'on permet de se repositionner et puis d'affiner sa position du futur. Et entre autres, je suis très content parce que je ne connaissais pas le film Demain et il m'a beaucoup impressionné.
Merci beaucoup, monsieur Larabi.
Qu'avez-vous ressenti durant la finale à Paris à l'UNESCO?
Bonjour, je m'appelle Céline Elkaï. Je suis ambassadrice en herbe de la zone Proche et Moyen-Orient. Et donc, je trouve que la finale à Paris était une très belle opportunité pour nous rencontrer, pour apprendre et communiquer, échanger. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est toutes les rencontres que nous avons faites. Nous avons vraiment, c'était vraiment une richesse. Et donc, débattre pendant cette finale était vraiment une opportunité inoubliable et une opportunité unique.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Joseph Giordano, je viens du lycée France International Marguerite Duras à Ho Chi Minh Ville. Je suis jouteur primaire.
Bonjour Joseph, qu'as-tu pensé de la 4e édition d'Ambassadeur en Herbe?
J'ai bien aimé, je pense que c'était une très belle aventure pour enrichir nos cultures, nous cultiver. Je trouve que c'était une aventure très enrichissante pour moi.
D'accord, qu'as-tu retenu des divers débats que nous avons abordés?
J'ai retenu qu'il faut tout de suite, il faut maintenant agir pour sauver notre environnement. Si on veut pas, comme par exemple sur la télé que j'ai regardé, il faut pas qu'il y ait une extinction massive comme il y a pas mal d'années encore. Et donc j'ai appris qu'il fallait agir, qu'il fallait préserver notre monde pour un monde meilleur de demain.
Merci beaucoup.
De rien.
Cet été, pourquoi ne pas partir en Birmanie? Voilà 4 raisons pour entreprendre ce voyage. Numéro 1. Pour visiter la plaine de Bagan. C'est une surface de 100 km² où s'élèvent entre 3000 et 4000 pagodes de plusieurs dizaines de mètres de haut, envahies par la végétation depuis des siècles. À pied, à vélo, dans un chariot tiré par un cheval, vous ne ferez jamais la même randonnée.
Numéro 2. Pour découvrir les 130 ethnies et cultures différentes, visiter les villages, apprendre les langues et les coutumes. Numéro 3. Pour visiter le lac Inle et son marché flottant qui se trouve au sud du centre du pays, très loin de nos habitudes occidentales, il y a de nombreuses habitations sur pilotis et des cultures qui se font dans l'eau. De nombreuses pirogues et barques viennent vendre des marchandises locales aux villageois et touristes.
Numéro 4. Pour voir Rindaya, la grotte aux 8 nids de Bouddha. Cette grotte est aménagée dans une falaise au-dessus du lac Inle. Ciment, trek, albâtre, bois, tous ces matériaux sont bons pour les statues qui sont là depuis le XVIIe siècle et qui ornent ce labyrinthe incroyable. Enfin, la Birmanie est un très beau pays et très riche en pierres précieuses. C'est pour cela que moi et Thaïs, nous vous conseillons beaucoup d'y aller. Au revoir!
Cette émission est maintenant terminée. Nous vous retrouverons dans 15 jours. Au revoir! It's time to party with my friends.
looks like